Alors d'abord, je tiens à remercier messieurs le professeur Fumaroli-Roche et Grossin-Vallon pour leur invitation, et Madame Henriette Rahusen de la National Gallery of Art à Washington, grâce à qui j'avais eu le bonheur en octobre 2011 de faire la connaissance de monsieur Fumaroli. Et je tiens à remercier aussi le personnel administratif du collège pour leur assistance. Alors d'abord, je commence avec cette image qui donne une sorte de bilan. Alors, je ne parle pas aujourd'hui de la crise de 1316. Et vous notez que c'est 1316 et pas 1328. Si on lit des chroniques, c'est évident qu'il y a un grand problème en 1316 et pas grand-chose en 28. Alors, premièrement, rupture de langage. À l'époque de 1355, consolidation du bien de la chose publique de notre royaume comme le langage officiel de la monarchie sous Charles V. Et puis, je cite quelques textes du républicanisme français, des grands textes, Gerson, Viva Rex, le Pragmatic Sanction, et le discours de Jean de Rély aux États généraux de 1484. Je cite un peu aussi la guerre du bien public, dont on reparlera en quelques instants. Je ne pense pas que j'ai la possibilité de parler des fiançailles de François d'Angoulême, de Claude de France, pendant ma conférence, mais si quelqu'un veut poser des questions, je peux en dire quelque chose là-dessus. Vous voyez aussi l'apogée, on peut dire, du républicanisme français, c'est les deux États généraux de 1560 et 61. On voit Henri III et ses assemblées, et je vous rappelle que Henri III est le seul roi français adulte qui a convoqué les États généraux entre Louis XI et Louis XVI. Il l'a fait deux fois, aussi une assemblée des notables. À mon avis, c'est à cause de son expérience en Pologne. Mais ça, c'est une autre question. Alors, on voit la transition entre le bien public, on passe d'abord au bien du service du roi. Et Henri III parle beaucoup de « mon État ». C'est un peu l'utilisation de Machiavel qui parle de « lo Stato di Medici ». L'État en tant que possession personnelle particulière. On parle beaucoup de utilité publique, du repos, mais avec l'assassinat d'Henri III, la tentative de Jean de Châtel, le traité de Vervins, on voit la transition entre le bien public, qui existe toujours, et le bien de l'État. Et Henri IV, Louis XIII, et après, on ne parle plus de « mon État », ou presque, on parle presque toujours de « l'État ». Alors, le triomphe du bien de l'État, on voit ça même dans les Mazarinades. Les Mazarinades qui, en quelque sorte, ont un vocabulaire, on peut dire, républicain, ne parlent jamais, ou presque, du bien public, mais presque uniquement du bien de l'État. Et Mazarin, évidemment, est un félon contre le bien de l'État. Et là, on voit le retour du bien public dès 1700, plus ou moins. Alors là, je débranche pour le moment. Je passe là, en plus court. Alors, depuis 38 ans, je travaillais sur la relation de l'État et de la société dans la France. Oh, pardon. En guise d'introduction à mes quatre conférences, je voudrais préciser brièvement la relation entre ce projet sur la monarchie républicaine et mon parcours d'historien. Depuis 38 ans, je travaille sur la relation entre l'État et la société dans la France moderne. Les deux paradigmes classiques, l'absolutisme pour l'État et l'immobilisme pour la société, m'ont toujours paru inexacts et décevants. Donc mon travail d'historien s'est engagé suivant ces deux pistes. Je reviendrai le 19 sur la question de la mobilité et le 26 sur celle de l'absolutisme. Oui, c'est débranché. Oui. Aujourd'hui, je veux parler du couple État-République. Dans mes investigations de la couture politique en France, je reprends le défi de Reinhard Koselleck. Je cite, « L'histoire des concepts a besoin des résultats de l'histoire sociale pour garder à l'esprit l'écart irréductible qui subsiste toujours entre la réalité disparue et ses témoignages langagières. » Je pense, comme Koselleck, que Begriffsgeschichte est une, et je cite encore, « aide nécessaire à l'histoire sociale » et que sans concept commun, il n'y a pas de société et avant tout, pas de champ d'action politique. Mais je crois aussi que nous devons opérer une recherche synchronique. Oui, utiliser le concept pour interroger la société, mais analyser la société pour comprendre le sens de ce concept dans son temps. Bourdieu, ici même, le 18 janvier 1989, dans ses cours sur l'État, l'a dit bien. Je cite, « L'analyse de discours qui étudie le discours sans étudier les conditions sociale de production du discours ne comprend rien. » Premier constat, mon point de départ consiste à situer les concepts dans leur réalité vécue. L'école de Cambridge, qu'on lit surtout au nom de Quentin Skinner et de John Pocock, recherche la réalité dans l'univers textuel et rhétorique d'un moment donné. Chaque système d'ordre politique construit un dialogue avec des morts pour se justifier. Pour l'école de Cambridge, nous devons analyser ce dialogue dans le contexte intellectuel de son temps. Je suis complètement d'accord, mais je lis aussi les sources dans la constellation des relations de pouvoir. Dans la vie quotidienne, les idées politiques ont un sens seulement dans un contexte politique vécu, dans un rapport des forces, dans plusieurs domaines. Je vous donne un seul exemple, ma lecture de La République de Jean Bodin. Dans l'histoire intellectuelle classique, on interroge la pensée de Bodin d'abord dans ses relations avec les grandes traditions de la philosophie et du droit. Nous devions consulter Baldus pour comprendre Bodin est évident. L'importance de l'héritage intellectuel dans la montée de l'État est claire. Robert Desimon et Fanny Cossendi pour la France et Gérard Oestrich pour le Saint-Empire ont si justement précisé que l'influence du néo-stoïcisme, surtout le Lipsius, pèse lourdement sur la création de l'État moderne partout en Europe. L'école de Cambridge cherche à situer Bodin parmi ses contemporains, tels que Othman ou Duplessis-Mornay, ou même parmi les auteurs moins connus des pamphlets de l'époque. En France, plusieurs jeunes chercheurs, comme Hugues Dossy pour Duplessis ou Marie Ulmer pour le Parlement de Paris, mêle ces deux méthodes à l'histoire politique des guerres de religion. Pour ma part, je commence avec Bodin, homme politique, dont je lis La République dans l'optique de son journal des États généraux de 1576. Il était député et un des chefs du tiers-État. Ça donne une toute autre lecture à sa position sur la nécessité du vote des impôts. Pour ne parler qu'un seul paradoxe, ça c'est un article classique de Julian Franklin, le paradoxe impôt-souveraineté de Bodin. Deuxièmement, j'interroge les cahiers de doléances et des délibérations municipaux pour voir le vocabulaire pratique des gens politiques et même dans le pays chartrain des paysannes de 1576. Ensuite, je passe aux traductions contemporaines. Latine par Bodin lui-même, italien, anglaise. Là, on voit des contradictions. Très intéressant. Dans le texte français, Bodin nous dit que le mot latin « majestas » est l'équivalent de « souveraineté ». Par contre, dans sa traduction latine, il utilise presque toujours « summum dominium » ou « summum dominium et potestas » et presque jamais « majestas » à la place de « souveraineté » dans le texte français. La traduction anglaise de 1606, dès les deux premiers mots de la première phrase, où puissance souveraine, dans le texte de Bodin, devient puissant sovereignty, dans le texte de Knowles, nous indique que le traducteur, Richard Knowles, croyait que les Anglais de 1606 comprenaient le substantif souveraineté dans le sens de Bodin. Dans un système hyper-personnalisé, comme la France monarchique, le crédit du roi joue un rôle fondamental dans la définition des termes politiques. La méthodologie classique de l'histoire intellectuelle, l'approche de l'école de Cambridge, la Begriffsgeschichte de Kosselek, tous les trois sont indispensables à nos efforts de compréhension du passé. Puisque je suis parmi les dernières de la tribu des spécialistes de l'histoire sociale, je vous propose donc une quatrième piste. Je tire mon contexte d'analyse de la réalité chaotique. En lisant, par exemple, la description des citoyens par Nicole Oram, je pense d'abord à la société politique de la ville de Reims ou à celle du duché de Normandie. Alors, je vous montre. Alors, voilà quelques images. Alors, ça, c'est la copie du duc d'Orléans. Et vous voyez des citoyens et les gens qui ne sont pas des citoyens pour Nicole Oram. Alors, les citoyens, c'est des gendarmes, les gens du conseil et les gens d'église. Et les gens qui ne sont pas des citoyens, qui sont des cultivateurs de terre, des marchands et des artisans. Notre copie, plus compliquée, on voit exactement la même chose. Vous voyez ? Alors, je débranche encore pour une seconde. Or, cette piste nous amène, où nous amène-t-elle ? Pensez aux assemblées du 14e ou du 15e siècle, que les historiens appellent les états généraux. Prenez la définition aristotélienne du mot citoyen donnée par Oram, qui sont les députés des états du 15e siècle. Là, on a beaucoup d'informations. Des citoyens aristotéliciens. Députés du tiers sont pour l'écrasante majorité soit des officiers royaux, surtout des lieutenants généraux des bailliages, soit des officiers municipaux. La noblesse est presque exclusivement composée de militaires, soit actifs, soit en retraite. Le clergé n'est composé que de prélats, abbés et de chanoines, les gouvernants de la Respublica Ecclesiastica. Quand le roi fait assembler les états généraux, il consulte seulement ceux qui gouvernent au niveau local. Les assemblées de bailliage, par contre, donnent la voix à ceux qui sont exclus des assemblées nationales, par exemple des marchands et même parfois des artisans. Le fossé entre les deux explique très bien les difficultés du début du règne de Charles VI. Pour comprendre les idées d'un Baudin ou d'un Oram, je cherche d'abord à savoir quelles sont les modalités de l'administration de l'époque d'Henri III ou à celle de Charles V. Quelle est la relation entre les gouvernants locaux et l'épanouissement d'un langage officiel de la politique? La monarchie s'empare parfois d'un discours d'extérieur, comme celui du bien public, pour le transformer en langage officiel. Ce discours fut pendant deux siècles un champ de bataille. Des interprétations différentes, pas forcément conflictuelles, existaient toujours, soit à la naissance de ce discours sur le bien public en 1355-6, soit en période de crise, comme en 1465, soit quand ce discours tomba dans une sorte de coma sous Henri IV. Puisque je n'accepte pas le paradigme d'absolutisme, aucun besoin de trouver ses racines. Je ne conçois jamais le système politique de Charles V ou de Charles VIII comme le laboratoire où l'on cultivait les premières souches de virus du despotisme monarchique. Je les conçois comme un système politique, comme tout système politique, c'est-à-dire comme un lieu de rencontre des élites de la société en question, avec de temps en temps l'intervention du peuple. Je pense à Bourdieu. L'État n'est pas un bloc, c'est un champ. Les ondulations de ces interventions populaires sont un élément fondamental du système politique. Cette rencontre peut être une confrontation, c'est toujours une lutte pour le contrôle des ressources, mais elle peut être également un processus de coopération, par exemple contre un nouvel acteur, un groupe social, un pouvoir étranger, une nouvelle religion. À la fin du Moyen Âge, nous voyons des coalitions particulièrement fragiles, instables et presque éphémères, d'où à l'importance primordiale des aristocrates, surtout les membres de la coopération capétienne dans la vie politique. Je ne vois pas l'évolution politique de la France comme le triomphe d'un pouvoir unitaire et centralisé, pour citer un historien. Franchement, pour moi, l'idée même d'un pouvoir unitaire est douteuse. Si vous lisez les deux volumes édités par Skinner et von Gelderen sur le républicanisme, un héritage européen partagé, vous voyez assez vite la divergence dans nos conceptions. Il ne part guère de la France. Pour l'école de Cambridge, le républicanisme classique n'existait pas en France avant l'époque de la Révolution. À mon avis, les sources nous disent le contraire. Pensez à Jean Jouvenel des Ursins, au début du XVe siècle, qui écrivit à ses fils dans son journal, je cite uniquement la fin, et tendre loyalement et raisonnablement à l'honneur, à honneur et puissance pour bien fidèlement Dieu et son prince et la République survivre. Jean Gerson, dans son Oraison si influent, Vivarex de 1405, dit presque la même chose. Tels doivent être appelés et conseillés qui doutent Dieu et conscience et mettent le bien commun avant le propre profit. Je vois deux changements fondamentaux dans le langage officiel de la monarchie française. D'abord, au lendemain du désastre de la bataille de Poitiers, une transition entre le langage officiel des droits, libertés, franchises et coutumes et celui du bien de la chose publique ou bien public. Je veux souligner cette expression précise, le bien de la chose publique, et non pas l'utilité publique ou le profit commun, deux expressions assez communes du XIIIe et du début du XIVe siècle. L'utilité publique ne doit rien à Aristote. Le bien de la chose publique vient directement de sa pensée, comme a si bien expliqué l'anglais Nicolas Kempschall. Je peux constater un deuxième changement dans ce formulaire au milieu du XVe siècle. Avant 1440, le roi dit presque toujours le bien de nous et de la chose publique de notre royaume. Dès ce moment, il parle souvent, pas exclusivement, mais souvent, tout simplement du bien de nous et de la chose publique. Deuxième changement de langue officielle, sous Henri IV, le bien de l'État se substitue pour le bien public. C'est un effort conscient pour faire croire, pour reprendre l'expression si juste d'Hélène Duccini, que les mots république et État sont synonymes. On voit la même chose en anglais, par exemple dans l'introduction de Leviathan de Hobbes. Il dit que le mot anglais state, c'est la traduction du mot latin civitas. Les États de nos jours continuent ce glissement linguistique. Il nous suffit de penser à la manipulation sinistre du mot « patriote » par George Bush et les Congrès américains, bel exemple de la monstruosité de ce mensonge. En 1600, nous parlons de la monarchie française, donc il n'est pas question d'une substitution brutale d'un vocabulaire pour un autre. Comme dans le monde des offices, l'invention d'un nouveau terme ne s'accompagnait guerre de la suppression de l'ancienne. Le vocabulaire des droits et franchises, un vocabulaire auquel la monarchie ajoute systématiquement, dès la première moitié du XIVe siècle, le mot « privilège » persiste jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et je peux dire que, par exemple, dans le dialogue entre le roi et, par exemple, les États de Bretagne disent toujours « droit, coutume, franchise, liberté. » Et le roi dit « droit, franchise, coutume, liberté et privilège. » Il y a toujours ce décalage entre les deux. Le triomphe du bien de l'État n'est assuré que vers 1630. Mais les deux ruptures sont évidentes à chaque niveau de la société politique française. Je dois insister aussi que le vocabulaire républicain persiste surtout dans les milieux urbains et parmi les intellectuels, même sous le roi Soleil. Je reviendrai sur cette question la semaine prochaine. Et je veux dire pendant un moment qu'une de mes sources les plus importantes pour mes recherches, c'est les registres des libérations des villes. Je veux voir comment les gens
plus ou moins ordinaires, utilisent le vocabulaire politique de l'OTAN. Pas uniquement le roi et les grandes philosophes comme Baudin, mais les gens ordinaires dans leur vie politique. Toutes les entités politiques européennes de l'époque moderne ont dû faire la transition entre un système de politique de république, une amas de citoyens, selon la définition du grand lexicographe Ambrosio Calapino du XVIe siècle, qui partage le pouvoir avec le prince, en France le roi, et l'État, tel qu'il existe dès le XVIIe siècle. Sous Henri III et Henri IV, les élites françaises, surtout l'élite judiciaire, prirent la décision de partager le pouvoir au sein même de cette nouvelle entité, l'État, et d'abandonner la République française si chère aux Européens du XVIe siècle. Première question, pourquoi ? Dans ses considérations sur la Pologne, Rousseau nous donne une réponse. Le repos et la liberté me paraissent incompatibles. Il faut opter. Que les élites trouvent ce choix nécessaire me paraît assez clair. Je vous en parlerai en détail la semaine prochaine. L'État français est plutôt l'ouvrage des gens de loi que de leurs maîtres royaux. L'histoire des XIVe et XVe siècles est celle de la victoire du ressort. Déjà en 1283, Beaumanoir disait que le royaume de France est l'ensemble des fiefs sur lesquels le roi avait le dernier ressort. Si un fief faisait partie du royaume de France, ce fief, par définition, était sujet au ressort du roi de France et de son parlement. À Bruges, en 1376, c'est précisément l'opinion du professeur John de Legnano de l'Université de Bologne, parce que le duché d'Aquitaine faisait depuis longtemps partie du royaume de France. Dans ce duché, la supériorité, c'est-à-dire en XIVe siècle, en français, la souveraineté et ultime ressort sont dus au roi des Francs. Personne ne pouvait priver le roi de ses droits. Legnano fut le professeur d'Evrard de Trémogon, qui, à la même période, dans son Songe du Verger, commandé par Charles V, faisait aussi cet argument. Nous pouvons penser aux instructions adressées au diplomate Jean Lefebvre en vue des négociations avec les Anglais à Bruges en cette année-là. Il devait nier même la possibilité qu'un roi de France puisse aliéner son ressort. Et je cite, « La première, si est que le roi, en sa nouvelleté et consécration, jouera en la présence de son peuple, non aliéner les droits de sa couronne. Et les plus grands et les plus principaux droits de sa couronne sont ses ressorts, hommages et souveraineté plurale. Pourquoi il se faisoit le contraire, il sera par jour et par conséquent infâme et ne sera digne d'être roi. » Qui a infamibus non patent porta dignitatum. Cette conception de la monarchie resta en vigueur chez les juristes jusqu'au XVIIIe siècle. Pour Pierre de Bellois, fin du XVIe siècle, de l'autorité du roi, et je cite, le roi est le seul et unique souverain de notre République. Bellois croyait, selon Aristote, que le droit de rendre justice en dernier ressort était un des trois piliers de cette souveraineté. Il parle aussi de Baudin. Mais comme le mot république l'implique, il s'agit d'un corps politique dont le roi, notre souverain seigneur, est le chef. Et si, et je cite, les lois, la justice et les règles ordonnées en la cité sont l'âme de ce corps civil, le roi qui commande est l'organe et la bouche de toute la police. Les gens du XVIIe est-il conscient de l'importance du langage du bien public dans la vie politique française du XVe et du XVIe? Je vous cite François Udès de Mézeray, historiographe de Louis XIV, qui, dans son abrégé de l'histoire de France, parlant du roi Charles VII, dit que, et je cite, « Le roi, de son inclination, était assez porté au bien de son État. » Ça, c'est typique de ce moment. Et nous voyons que dès ce temps-là, jusqu'au règne d'Henri II, les rois se servaient assez volontiers de ces termes. Et c'est en italique, dans l'original, la chose publique de notre royaume. Mézerès savait que le vocabulaire du bien public vivait toujours en 1596. Parlons de l'Assemblée des notables de Rouen. Il se lamentait que les ordres qui se donnent pour le bien public en ces assemblées-là s'en vont toujours en fumée. C'est un peu comme nos jours. Pour lui, l'édit de 1597 qui créa des officiers de finances triennaux constituait une autre atteinte au bien public. Ce dernier moyen était extrêmement à charge aux finances du roi et par conséquent à son peuple. Il se trouva quelques conseillers au Parlement plus dignes de l'ancien Rome que d'un pays où l'amour du bien public passe pour un reverie. Ce sont ces conseillers qui ont fait des remonstrances contre l'édit. Les instructions diplomatiques d'Henri IV pour les négociations de Vervins en 1598 mentionnaient souvent le bien public et la république de la chrétienté. Arrêtons-nous maintenant pour quelques définitions. Qu'est-ce qu'une monarchie pour les Français de Charles V ou de Charles IX? Ils prenaient presque toujours la définition donnée par Nicole Oram dans son glossaire pour la traduction des politiques d'Aristote, qu'il écrivit aux ordres de Charles V. Et je peux dire que le glossaire est beaucoup plus important que le texte. Et je cite, « Monarchie est la politique ou le principe qui tient un seul. Elles sont deux espèces de monarchie, une est royaume et l'autre est tyrannie. » C'est quoi la tyrannie? Premièrement, c'est un seul qui tient le principe et la monarchie à son propre profit et contre le bien public. Un tyran se fait connaître par ses actions contre le bien public. Mais c'est quoi le bien public? Alors, pour les gens de cette époque-là, l'honneur de Dieu, les droits et domaines de la couronne, les lois et la justice. Dans un sens négatif, le bien public, c'est l'envers de son ennemi mortel, le bien particulier. C'est une distinction qu'Orem faisait déjà dans son traité de 1355 sur la monnaie des monnettes. Ce traité fut la source probable du discours de Robert Lecoq sur la chose publique en 1356, qui est le début de ce vocabulaire. La monarchie est et doit être le gouvernement d'une seule personne pour le bien public. Cette personne doit gouverner par raison et justice. Et cette justice est intimement liée à la religion. Si je peux reprendre une distinction faite par Michel Foucault en mars 1978, nous voyons la différence entre la monarchie en tant qu'une des trois espèces de république, c'est-à-dire de gouvernement légitime, et l'État. Foucault a justement souligné la définition de l'État se réfère purement à lui-même. Je cite, « L'État était défini par les théoriciens de la raison d'État comme étant toujours en lui-même sa propre fin. L'État ne s'ordonne qu'à lui-même. Il n'y a aucune loi positive, bien sûr, ni même aucune loi morale, ni même aucune loi naturelle, à la limite même peut-être aucune loi divine. Il n'y a aucune loi qui puisse s'imposer de l'extérieur à l'État. L'État ne s'ordonne qu'à lui-même. » Il cherche son propre bien et n'a aucune finalité extérieure. Fin de citation. Par contre, la définition classique de monarchie se fait en référence aux normes morales, à la raison, à la justice, à la religion, en bref, au bien public. L'État de Louis XIII était une institution réelle. Je vous cite brefement une différence entre, par exemple, l'État de Louis XII et Louis XIII. Dans le royaume de Louis XII, on avait plus ou moins 100 élus. Alors, les élus sont les officiers qui dirigent les finances du roi dans les élections des juridictions locales. Dans la seule Normandie, sous Louis XIII, on avait 200 élus. Donc, deux fois plus que le royaume entier de Louis XII. Alors, cet État avait ses propres besoins, ses propres intérêts, particuliers comme institution, et corporatifs pour ses officiers. Dans ce sens, l'État n'existait guère à l'époque de Charles V ou de Louis XII. l'idée de gouvernement était assez restreinte au Moyen Âge. Nous avons le témoignage précieux d'un des conseillers du dauphin Charles en 1357 de la conception du gouvernement de ceux qui gouvernent. Et je cite, en cinq points, J, l'État est le gouvernement du roi et du royaume de France, en conseil et gouvernement surtout de la guerre, de la justice, de la dépense de son hôtel, règlement des dons de son domaine et en rémission des méfaits, des crimes et délits. Fin de citation. Nous sommes là assez loin de notre idée de l'État ou même celle d'un Colbert. Vous notez que ce conseiller, raisonnablement, à mon avis, Simon de Bouchy, n'a fait aucune mention des impôts. Le roi est un guerrier, il est le dernier arbitre des disputes, il est un grand seigneur, le souverain seigneur, selon l'expression du temps. Souverain, il faut le rappeler, fut la traduction française du mot latin supérieur, le plus haut. Ce n'est pas par hasard que Louis XIV choisit le mot supérieur pour remplacer celui de souveraine dans la description des parlements. La crise de 1356 marqua la naissance de la monarchie républicaine. L'enfant avait deux parraines, Robert Lecoq, allié du roi de Navarre et Étienne Marcel, et Orem, évêque de Laon et donc pair de France. Lecoq était un avocat formé à l'université d'Orléans. Orem, par contre, était un philosophe. Il fait ses études à Paris, où il devient recteur du collège de Navarre. C'est donc déjà la rupture soulignée par Jacques Prinen pour les années 1370. La ligne des philosophes au sein du gouvernement passe d'Orem à Gerson, Pierre Daly et pas mal de leurs collègues du collège de Navarre, même au XVIe siècle. Paris, en ce moment-là, envoie débat sur la monnaie. Jean II promit, dans son ordonnance de décembre 1355, suite aux demandes de l'Assemblée de novembre, de garder la forte monnaie, promesse vite oubliée l'année suivante par le roi, mais non pas par les députés. Alors, qui étaient ces députés ? La présence des gens du monde du commerce paraît beaucoup plus importante qu'aux assemblées du XVe siècle. On peut citer quelques exemples, mais à partir de ce moment, d'autres documents de provenance urbaine, de Melun, Soissons, Rouen, Reims, Amiens, Troyes, Montpellier, etc., nous indiquent l'ubiquité du vocabulaire du bien public en ce milieu. Ce vocabulaire du bien de la chose publique n'est pas inouï, mais elle est assez rare en ce moment. Je vous montre encore une image que j'aime bien. Et c'est l'image, et c'est Robert Lecoq qui parle aux États, et c'est les conseillers du roi, les accusés, qui le regardent avec inquiétude. Et la plupart ont perdu leur poste en ce moment-là, pour revenir 2 ans plus tard. Parmi eux, Simon de Bouchy. Alors, les assemblées de Paris et de Toulouse font la distinction entre le bien de la chose publique et le bien particulier ou singulier profit des conseillers grouillants. Le dauphin, dans ses lettres, a dit exactement la même chose. Alors, pourquoi ce nouveau vocabulaire? Si le roi donnait toujours à attendre que la monnaie faisait partie de son domaine, il savait très bien que tout le peuple avait besoin de monnaie. En 1346, Philippe VI le dit ainsi. Je cite, « L'édit ouvrier et monnayer étroit ordonné pour le commun profit de tout le peuple, car son monnaie ne pourra le monde bonnement être gouverné, ne faire droit égoté à chacun, c'est-à-dire égalité, à chacun de ce qui est sien. Or, fait droit égalité à chacun de ce qui est sien, c'est l'essentiel de la justice, d'après Aristote. Si la justice est au cœur du bien public, la bonne monnaie y est aussi. Dès qu'il publia des lettres pour le monnayage des nouvelles espèces à Paris, en novembre 1358, le dauphin dut en allumer annuler la production suite aux émeutes parce qu'il a entendu dire que le peuple n'était pas content et ne voulait en aucune manière faire le déplaisir du dit peuple. C'est l'écho d'une prédiction de Rhème au chapitre 9 de Des Monnettes. En décembre 1360, Jean II rétablit la bonne monnaie dans l'ordonnance pour les aides de sa rançon. Il veut agir, et je cite, « à la louange et plaisir de Dieu, au profit et bien commun de tout le peuple de notre royaume ». D'où vient cette expression du traité de Rhème. 130 ans plus tard, la bonne monnaie était toujours une demande des États généraux de Tours. Le porte-parole, Jean de Rally, reprenait les mots de Rhème, parlant des murmures et de la scandale. Rhème disait que l'image du roi sous la pièce de monnaie n'est que son attestation que la pièce en question était de bonne loi. La valeur fixe de la monnaie appartenait au bien de la communauté et non pas de profit du Seigneur. Un prince qui manipulait la valeur des espèces pour son profit singulier était un vil tyran. La monnaie existait seulement pour l'utilité et bien de la communauté civile et la nécessité de la République. Un siècle plus tard, Jean Jouvenel des Ursins, aux États généraux de 1468, fit un comparaison assez instructif. Je cite, « Le son de la chose publique d'un royaume, c'est l'or et l'argent. Et quand il défend le droit, comme il commence fort, et s'il n'y met en point de remède, il faut conclure que la chose publique périra et sera mise à mort. » En 1484, Jean de Rally le dit ainsi. « Comme ainsi soit que le son et le soutènement de la vie corporelle, ainsi sont les finances du royaume le soutènement de la chose publique. » Dès les années 1370, le vocabulaire du bien de la chose publique s'imposa partout dans l'ère royale, en Bretagne et en Bourgogne. C'est moins évident dans le sud-ouest, en Dauphiné ou en Flandre. Là, on parlait toujours des droits, libertés et franchises. En Angleterre, ce vocabulaire est presque inconnu jusqu'au milieu du XVe siècle. Dont le républicanisme français est beaucoup plus vieux que celui des Anglais. Henri V d'Angleterre n'est pas étranger, quand même, du concept du bien public. Le traité de Troyes, dans son article 23, par exemple, Henri donna sa parole qu'il n'imposerait des impôts que, et je cite, « pour le bien public du dit royaume de France ». Les relations internationales nous donnent une bonne perspective sur la mentalité politique de l'époque de Charles V, dont le traité de Calais, Édouard III, exigea que tous les membres de la République du royaume de France jurent le serment. Il garda des otages non seulement de la famille royale et de la grande noblesse, mais des bonnes villes, une vingtaine de villes. Ce traité nous donne la liste des citoyens du corps politique et de la République du Royaume de France. Le roi, sa famille, les nobles, les grands terriers, mais aussi tous les officiers royaux et municipaux. C'est le personnel même des États généraux. Alors, les conseillers du roi voulaient bâtir une monarchie plus aride, et donc, en retour à la forte monnaie, on légifère aussi l'union de la couronne de France et de ses membres, c'est-à-dire des paris. Jean II et Charles V donnent des lettres d'union indissolubles pour les duchés de Normandie, de Bourgogne, et comtés de Champagne et Toulouse. Ensuite, dès la reconquête des villes et des provinces, même des villages dans les années 1370, il naît des lettres d'union permanentes. Il y a énormément. Alors là, je passe suivante. Alors, Charles V, le sage, organisa la production assez complexe d'un langage officiel, un système de normes qui réglait la communication. On ne peut pas donner un meilleur exemple du processus de Bourdieu que l'offensive politique de Charles V aux années 1370. Son royaume est mutilé géographiquement, mais aussi du point de vue démographique, institutionnel et même moral. Il a mis de l'ordre partout, surtout par ses mots et sa publicité. Alors, je vous donne ce processus de légitimité allait dans les deux sens. Le roi et ses traducteurs, Jean de Courbuchon, Foulchat, Ram, Goulin, Raoul de Pral, opéraient un échange réciproque. Des personnages comme Ram et de Pral avaient leur légitimité propre. Orem, par ses études à Paris et ses carrières d'enseignant des philosophes, de Pral, par ses études de Noël à Orléans, et le patronat royal des pensions, des bénéfices, des offices royaux, fut en quelque sorte l'attestation de leur status. L'utilisation royale de leur vocabulaire, qui commence avec Charles V. Avant, on ne dit presque jamais un mot de philosophie au début des ordonnances royales. Par exemple, dans les ordonnances sur l'organisation financière en 1372 ou 73, ou encore plus important, dans les ordonnances sur les apanages, la régence et la succession, donnait une légitimité philosophique aux lois royales et l'imprimatur royal au sens de ces mots nouveaux inventés par Orem et Foulchat. Orem est l'inventeur d'environ une centaine de mots français. Ce n'est pas par hasard que ceci arriva au même moment que la traduction d'Orem des politiques d'Aristote, celle de Raoul de Pral de Saint-Augustin ou de Foulchat de Polycratique de Jean de Salisbury. Alors, je veux vous citer... une définition de une utilisation voilà le glossaire Orem fut le premier par exemple à utiliser le mot aristocratie ou celui d'oligarchie en français. Pendant 200 ans, tous les auteurs français se servaient des définitions d'Orem. Je vous donne un seul exemple. La contribution la plus importante d'Orem, à mon avis, est la phrase suivante. Tout un royaume ou un pays est une grande cité qui contient plusieurs cités partielles. Cité est le mot français pour le latin civitas, l'amas de citoyens. 200 ans plus tard, sans attribution, Duplessis Mornay, dans son Remonstrance aux États pour la paix, donne cette paraphrase d'Orem. Je cite, tout ce royaume n'est qu'un cité, qu'une maison, qu'un corps qui n'a qu'un roi, un père de famille, un chef qui se ruine, se brûle, se meurt tout ensemble. Vous voyez que Mornay mélange l'ancien, la cité d'Orem, et le roi comme chef du corps politique, avec le nouveau image du roi comme le père de famille. Alors, je vous donne quelques petites images de la production pour Charles V. Alors là, vous voyez, il lit la Polycratique. Donc, il veut que les gens savent que c'est vraiment le roi sage. Et là, c'est la traduction de la Cité du Dieu. Ici, il reçoit le sceptre dit de Charlemagne et la main de justice. Ce qui n'est pas vrai, évidemment, il n'y avait pas un sceptre de Charlemagne au moment de sa couronnement, mais c'est le livre couronnement. Vous voyez, ça, c'est une image que j'adore. C'est l'image du roi Wenceslas, de l'empereur et du Charles V. Et vous voyez la couleur des chevaux. Et pourquoi ? Parce que, et si on passe, et là c'est l'entrée à Paris, et ça c'est l'image le plus grand des grands chroniques de la copie de Charles V. Alors, voilà l'entrée de l'empereur, toujours grand chronique de Jean Fouquet, putain, qui est à Cambrai. Et pourquoi un cheval blanc? Parce que l'empereur a le droit d'entrer dans toute ville soumise à sa puissance sur un cheval blanc. Et évidemment, et on voit, c'est la même chose avec... il voyage comme ça, et on voit l'image de Jean Fouquet encore, parce qu'il est gravement malade à ce moment-là, il a une goutte, je crois. Alors ça, c'est l'image de la copie de Charles V. Et il, toujours, les prévôts de Marchand et des Parisiens, toujours. Alors voilà, ça c'est Charles V qui perd, et vous voyez là son cheval blanc. Et il faut changer de cheval. Alors, les chevaux en question sont un cadeau du roi Charles V à l'empereur et à son fils pour l'entrée de Paris. Et on dit dans les grandes chroniques le couleur, pas uniquement en image, mais le couleur. Si vous... Et donc, c'est assez important. Et vous voyez là l'empereur qui a avec son cheval noir et le roi avec son cheval blanc. Alors, pas question de faire une faute. Voilà. Le temps passe et donc je ne cite pas tout ça. Tout ces... Ouais, je donne un dernier exemple et puis je passe à la fin de conférence. Alors, nous avons nous prenons presque jamais au sérieux la guerre du bien public sous Louis XI, ce tyran qui ne respectait rien, pour reprendre la phrase de Michelet. Tout le monde connaît la formule si brillante de Comines sur la fin de la guerre du bien public, car le bien public étroit converti en bien particulier par les princes. Pour Jean Favier, le bien public est une formule, mais ce n'est pas un programme. Personne ne peut nier l'égoïsme de Charles le Téméraire, de ses alliés princières. Tout passe des traités avec le roi et plusieurs devaient payer plus tard avec leur vie pour leurs bêtises. Mais nous devons aller plus loin. C'est Louis, même des chroniqueurs favorables au roi, comme Jean Mauclerc, nous dit qu'on entendait des plaintes contre la rupture de 1461, un si soudain changement et en si grand nombre. Les gens de bien, il dit, se réjouissent en 1465 de la restauration des anciens officiers. Je peux vous dire qu'il y avait un vrai massacre des officiers. 75% des gouverneurs, des baillis, des autres grands officiers sont licenciés par Louis XI au début du son règne. Alors, il a aussi atteint contre la disgrace des conseillers royaux au début d'un règne était chose banale partout en Europe, évidemment. Mais ce massacre des officiers par Louis XI n'a aucune parallèle dans l'histoire de la monarchie française. Louis XI lui-même a reconnu sa faute catastrophique. Comines nous dit que Louis a regretté sa folie et erreur. Nous devons ignorer le sort des princes pour bien comprendre la suite de la guerre du bien public. L'essentiel, c'est l'ordonnance d'octobre 1467 qui interdit le licenciement des officiers royaux, sauf dans des cas exceptionnels. je cite l'ordonnance, « considérant en nos officiers consiste sous notre autorité la direction des faits par lesquels les policiers aient entretenu la chose publique de notre royaume. Et que, dit celui, ils sont les ministres essentiels comme membres du corps dont nous sommes le chef. » Les officiers restent conscients de l'importance de cet édit. En 1747, le président Hénault, dans son abrégé de l'histoire de France, à la rubrique de l'année 1467, ne cite que deux choses, la mort de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et l'édit sur les officiers. Les officiers judiciaires et financiers, le vrai corps politique du royaume, obtient donc une réaffirmation de leur place comme membres du corps politique et des principaux soutiens de la République. Louis XI en fait autant avec la Pragmatic Sanction, à laquelle il renonçait au début du règne, et après, c'est une situation bien compliquée, mais le Pragmatic Sanction revient encore à la fin de son règne, et surtout sous Charles VIII. Alors, est-ce que les élites de ce moment avaient un programme politique? Oui. L'élection est la clé de voûte de cet édifice. Les républicains soutiennent toujours la Pragmatic Sanction, donc l'élection des évêques. Jean de Rély parle de l'élection, et je cite, des procureurs, avocats, lieutenants généraux des bailliages, baillis, sénéchaux, élus, vicomtes, officiers des chambres des comptes, généraux, conseillers sur le fait de la justice des aides, c'est-à-dire la cour des aides, du trésor, conseillers et examinateurs du Châtelet, et des membres des cours souverains du Parlement et autres officiers de judicateurs. Une fois nommés, les officiers assument correctement le devoir de rester en office à vie. Hénault, toujours au milieu du XVIIIe, dans sa pièce François II, une pièce minable, nous révèle l'importance du principe de l'élection et toujours vivant en plein ancien régime. Écoutons son dialogue entre Catherine de Médicis et le connétable Montmorency. Catherine, le roi voulant qu'il n'y ait dans tous les corps du royaume que des juges d'une intégrité reconnue et qui joignent à la probité de la science des lois, ordonne qu'à l'avenir, que lorsqu'il se trouvera une place vacante par mois, les juges lui présenteront trois sujets vertueux et éclairés entre lesquels sa majesté en choisira un. Montmorency. Ô illustre chancelier, Olivier, digne d'un meilleur temps, cette loi, madame, pourvu qu'elle soit exécutée, doit seule immortaliser le règne du roi si la justice est la première vertu des souverains. Voilà. Si on demande l'élection des officiers, les candidats doivent être les gens ayant des capacités suffisantes. Rély souligne que les vicomtes, prévôts, etc., requièrent gens experts en judicateurs et recettes, et pareillement les offices des élus qui requièrent des gens de littérature, expérience, prudence, conscience et grande circonspection. Malheureusement, ces offices sont parfois donnés aux gens non lettrés et non experts, soit par l'intercession d'un grand, soit par la vénalité. Même les Il s'agissait donc de moyens de protéger les juristes. Rien d'étonnant, parce que plus de 60% des députés des bonnes villes sont des officiers royaux. Et la plupart des... Alors, on ne peut pas imaginer un meilleur exemple de la liaison entre les savoirs professionnels et la création d'une élite de pouvoir, si bien expliquée par Bourdieu. Ce lien reste en vigueur sous Louis XIV. Rappelons-nous qu'un intendant devait être préalablement un maître des requêtes, office vénal, et que maître des requêtes devait avoir servi 4 ans dans une cour souverain ou supérieur, pour reprendre le mot de Louis XIV. Les recherches de Smadival nous rassurent que Louis XIV n'a presque jamais fait d'exception à ces règles. Alors, je passe à la conclusion, parce que le temps passe. Alors, le moment de rupture sur Henri IV. On a, par exemple, les témoignages de Jean Châtel et de Ravaillac. Tous les deux, pourquoi ils ont agi? Tous les deux disent exactement la même chose. Jean Châtel a dit que ce qu'il a fait est pour le seul motif de sa conscience, pour le zèle de l'honneur de Dieu. Ravaillac a dit qu'il fallait préférer l'honneur de Dieu à toute chose. Alors, vers 1570-1600, tous les polities européens durent opérer la transition entre un système politique d'une république avec un groupe de citoyens qui partagent le pouvoir avec le prince et l'État. Polities, voilà un mot tiré du grec qui n'a plus d'équivalent en français contemporain. La Russe nous donne État, un bon exemple de notre confusion autour de ce mot plastique, si plastique. Pourtant, Rousseau l'a utilisé, et c'est un mot courant avec l'orthographie P-O-L-I-C-I-E, comme nous avons vu au temps de Horam ou de Christine de Pisan. C'est la perspective du grand médiéviste anglais, John Watts, dans un livre très intéressant, The Making of Polities, Europe, 1300-1500. Il ne part pas des États. Pour lui, pour moi, il n'y avait aucune État dans notre sens, dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge. Dans une large mesure, je crois que sa perspective vient du rejet presque unanime des modernistes anglais de la formule absolutisme. Si l'absolutisme est une herbe purement mythique, aucun besoin de chercher ses racines dans les sociétés politiques de la fin du Moyen-Âge. Il faut choisir... Non, je passe dans l'autre texte. C'est peut-être mieux. État, république. Et est-ce que la distinction est importante, non seulement pour notre analyse de l'histoire, mais pour nos jours? Je vous donne un exemple que j'adore. C'est le sceau de Massachusetts. Moi, j'étais né à Boston. Et c'est un sceau assez intéressant parce que c'est après le début de la Révolution américaine, mais avant la Déclaration d'indépendance. Et vous voyez que, et ça c'est la traduction officielle, « By the sword we seek peace, but peace only under liberty ». Alors, qui a fait ce sceau? C'est Paul Revere, qui est connu à tous les enfants américains comme un grand patriote. Alors, cette image, le nouveau sceau de la colonie de Massachusetts, fait en l'été 1775, montre les deux aspects de la communauté politique. L'épée de l'État, de la force, et la Magna Carta, symbole de la liberté, de la justice, en bref, de la République. C'est ça qui tient dans les deux mains, l'épée et la Magna Carta. Je peux vous dire qu'un peu plus tard, on trouve son sceau trop radical et on l'a remplacé en 1780. C'est une distinction qui peut semer la confusion au XXIe siècle, mais pas mal de nos problèmes d'aujourd'hui viennent de la confusion dans notre vocabulaire politique. La politique étrangère américaine oublie complètement la dimension républicaine de nos intérêts. Chez nous, le Conseil national de sécurité du président est tellement militarisé qu'on parle des buts tactiques des forces armées comme s'ils sont des fins stratégiques de notre politique. En Europe, la soi-disant crise de dette souveraine d'un pays comme la Grèce est un faux, à mon avis. Un pays qui ne contrôle pas sa politique monétaire et fiscale n'a pas de dette souveraine. C'est un non-sens. La dette de Grèce est l'équivalent légal de la dette de l'État de Virginie et non pas celle des États-Unis. Alors, l'État de Virginie, ce n'est pas exact, parce que j'habite en Virginie. Virginie, ce n'est pas un État, c'est un Commonwealth. Aux États-Unis, on dit qu'on a 50 États, mais ce n'est pas vrai. On a 46 États et 4 Commonwealths, ouais, républiques. Et les 4 sont les trois grands centres de la Révolution américaine, Massachusetts, Pennsylvanie et Virginie. Le quatrième, c'est Kentucky, qui, à l'époque de la Révolution, est partie ouest de Virginie. Alors, c'est une rupture assez intéressante. Au Proche-Orient, la solution des deux États en Israël-Palestin est une chimère, à mon avis. L'État d'Israël, c'est son nom officiel, n'accepte jamais la demande d'un État de Palestine, les Palestiniens demandent un État, qui soit un État souverain dans notre sens du mot. Et l'importance primordiale des deux parties que les deux parties donnent à la raison d'être de l'État, la sécurité, immobilise leur discussion. Une solution de deux républiques, par contre, s'il est loin d'être facile, est au moins théoriquement possible. Le conflit entre les philosophes et les juristes sous Charles V met en marche le processus qui aboutit sous Henri IV par la victoire des gens de loi. Sous l'Ancien Régime, une partie de cette élite devenait la noblesse d'État, et cette noblesse, à la différence de celle de l'épée, persistait jusqu'à nos jours. Il nous demande toujours de penser de l'État comme le synonyme de la République, mais c'est aux citoyens d'insister, comme Jean de Rais, que ceux qui dirigent le gouvernement doivent comprendre que les gouvernements sont les serviteurs du bien public, c'est-à-dire le bien collectif de la République, et non ses maîtres. Je vous remercie.